On va lire donc Matthieu 5 à partir du verset 21 et jusqu'à la fin du chapitre. Le message portera sur un passage plus court, mais comme ça on a tout le contexte. Et David se référera aussi à d'autres parties du chapitre. Donc comme ça on aura tout en tête. Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raca sera justifiable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis, de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 mille, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi, n'en faut-il pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Les enfants peuvent aller.
Dans les codes de dimanche. Gardez ce passage de Matthieu 5 devant vous. Nous, depuis quelques semaines, nous étudions le plus merveilleux des sermons, le sermon de Jésus-Christ qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est une charte d'une vie complètement, radicalement transformée. C'est le ciel sur la terre si on vit selon ce sermon. C'est un appel inouï. Aucun homme, en aucune religion, n'a jamais parlé de la sorte. Jamais. Il n'y a rien qui puisse se comparer, même de loin, aux propos de Jésus, aux consignes de Jésus, aux ordres de Jésus, aux promesses de Jésus. Ici, nous avons la vérité venue du ciel, la vraie religion. C'est tellement époustouflant que même à l'entendre lire tout à l'heure, vous devez dire, mais non, c'est pas possible. C'est exactement la réponse qu'on devait attendre si Dieu lui-même parle de sa manière de vivre et ils disent qu'il est temps que vous viviez comme cela. Eh bien voilà. Et nous sommes arrivés donc à cette partie du chapitre 5 où Jésus va maintenant parler de la loi de Dieu. Nous avons vu la semaine passée qu'il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir, c'est-à-dire pour lui donner son plein sens, sa plénitude. Et Jésus, donc, va maintenant, par six illustrations, six exemples, nous montrer le vrai sens, le plein sens de ce que Dieu veut de nous, la loi de Dieu, ou si vous voulez, la justice de Dieu. Maintenant, je suis en introduction, hein. La loi de Dieu a pour nous plus d'une fonction, je vous en parle de deux. Le rôle de la loi de Dieu est comme un miroir parfois qui vous montre vous-même. D'accord? Quand vous regardez les critères, vous pensez à votre vie et vous dites, ah, je ne correspond pas à ce que Dieu veut et aime. C'est comme lorsque vous regardez dans le miroir et vous voyez le bouton. Ah, je n'avais pas vu. Et quand vous regardez la loi de Dieu, vous dites, je pensais que j'étais un gentil garçon, une gentille fille. Et maintenant, je vois plein de tâches dans ma vie, plein de contradictions de Dieu dans ma vie. Ça, c'est le premier rôle. Dieu est bon pour nous faire cela, n'est-ce pas? Parce que qui veut vivre avec des boutons partout sans les voir? Surtout quand il s'agit de boutons moraux, des choses destructeurs qui nous éloignent pour toujours de Dieu lui-même et qui détruisent nos mariages, nos familles. Ainsi de suite. Deuxième rôle de la loi, c'est aussi un miroir, mais non pas pour vous voir vous-même, mais pour voir un reflet, parce que parfois dans un miroir, on voit quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Quelqu'un dont le reflet se jette sur vous par un miroir. La loi donne le reflet du caractère du Père, parce que tout ce que Dieu exige de nous, ça correspond à ce qu'il est lui-même, n'est-ce pas? Et je viens de vous donner en fait le cœur et la clé du sermon sur la montagne. Sans cela, vous n'allez rien comprendre. OK? Le christianisme ne vous plaque pas une loi, un code abstrait, impersonnel. Le Christ vous dit, soyez comme le Père. Regarde, je vous prouve ça par deux versets. On va regarder le début et la fin de cette partie du sermon où Jésus explique la loi ou la justice que Dieu veut de nous. Donc d'abord le verset 20, si vous voulez bien, Jésus dit, il explique ce qu'il va faire. Il dit dans le verset 20, car je vous dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ok, Jésus va nous parler de la justice qui doit caractériser le vrai enfant de Dieu. D'accord? Nous avons vu la semaine passée qu'il est en train de dire que les scribes et les pharisiens avaient tronqué la loi de Dieu, avaient arrondi les angles avait diminué les exigences de ce que Dieu, pour ça correspond à nous. OK? Pour qu'on puisse y arriver. Et Jésus dit, les gens qui vivent en coupant, dans la, non, ça c'est trop dur, ça c'est, non, Dieu ne peut pas demander ça. Ça c'est des gens qui ne sont pas en train d'aller au royaume des cieux. Si votre justice ne dépasse pas cela, vous n'êtes pas dans le royaume. Et vous n'allez pas dans le royaume après. OK? Donc, ça c'est le début. Et dans le reste du chapitre que Joël va lire, il va nous expliquer quelle est cette justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens. Ça ressemble à quoi? À quelle sorte de vie? Et tout à la fin, dans le verset 48, il résume. Quand on arrive à la fin de quelque chose, on résume, n'est-ce pas? Alors Jésus résume par une phrase très importante. Il dit dans le verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est-à-dire la justice que je vous demande, que Dieu vous demande, c'est d'être comme le Père, comme lui. Tel Père, tel Fils. C'est un appel glorieux, n'est-ce pas? Où Dieu, notre Créateur, nous dit d'être comme lui dans tout son amour, et sa bonté, sa justice. Donc, est-ce que vous vous rappelez, quand on a étudié les béatitudes, qu'on est tombé sur cette béatitude, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Jésus est en train de nous dire que cette justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens, la justice dans vous, puisque vous êtes chrétien, si vous êtes chrétien, la justice pour laquelle vous avez soif et faim, c'est quoi? C'est d'être comme le Père et de ne pas tronquer, ne pas diluer, ne pas avoir une justice qui est moindre, humaine, limitée, mesquine, mais d'être tout ce que le Père est dans le petit reflet que vous êtes. Ça va? OK. Je veux vous prouver ça, et puis on va commencer nos 4 points qui ne seront pas difficiles et pas longs, mais c'est la fin de cette introduction qui est importante. Je veux vous montrer que je veux vraiment vous pousser à savoir qu'il n'y a plus d'éthique impersonnelle abstraite, un code. Non, c'est une personne, c'est une attraction, c'est faim et soif d'être comme toi parce que tu es le Dieu qui sauve, qui aime le pécheur, qui est patient, qui retient sa colère, qui est merveilleux. Toute ma vie, c'est simplement je veux être comme toi. OK? Et la loi de Dieu, c'est Dieu est d'accord, c'est lui le premier qui dit soyez comme moi. Je vous le prouve par 2 versets. Donc, le premier, c'est le verset 9 dans le chapitre 5. Regardez dans la béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quand tu es un faiseur de paix, on va te dire que tu ressembles à ton Père. Tu seras appelé fils de Dieu parce que tu as la ressemblance familiale. Donc, dès le début du sermon, Jésus est en train de dire, vous devez être comme ça parce que vous serez comme des fils. Vous serez le reflet du Père. Et à la fin du sermon, dans les versets 45, 44 et 45, lisez bien ces versets avec moi. Il dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Pourquoi? Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Vous voyez la logique? Chaque fois, l'idée est que la justice que Dieu vous demande va jusqu'à une extrême bonté, une extrême bonté, parce que le Père lui-même est un Dieu d'une extrême bonté. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil sur la partie que Joël a lue et vous allez voir qu'il y a 6 fois que Jésus dit à peu près une même phrase. 6 exemples que nous allons étudier au fil des semaines à venir. Je commence par le verset 21. 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Verset 27, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis, j'aurais dû vous montrer que dans les 2 cas précédents, il dit aussi, mais moi je vous dis. Ensuite, j'ai raté le verset 27, on va aller en arrière. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras... Non, je l'ai lu, ok. Bon, on continue, excusez-moi. 33, vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments, mais moi je vous dis. Verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis, et dernière fois, 43, vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Jésus n'est pas en train de corriger l'Ancien Testament, parce que ce sont des citations le plus souvent de l'Ancien Testament, sauf dans 20 cas. Il est en train de corriger le mauvais enseignement des pharisiens et des scribes par rapport à l'Ancien Testament. Les pharisiens et les scribes ont pris les lois de l'Ancien Testament, et comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont tronqué, ils ont arrondi les angles, ils ont ajouté des choses que Dieu n'a pas dit. Et Jésus vient maintenant comme l'autorité finale de la loi. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vais vous donner le vrai sens et le plein sens. Je peux vous l'assurer que Jésus n'est pas en train de se mettre en combat avec l'Ancien Testament, parce que quand Jésus cite l'Ancien Testament ailleurs dans sa vie, si vous lisez les évangiles, comment est-ce qu'il le cite? Qu'est-ce qu'il dit au début?
Il est écrit.
Chaque fois qu'il cite l'Ancien Testament, il dit « il est écrit » ou parfois, moins souvent, « Dieu dit ». Mais ici, il dit ni l'un ni l'autre. Il dit « vous avez entendu ». Vous avez entendu qu'il a été dit. Donc Jésus va évacuer toutes les faussetés mises sur la loi de Dieu par les pharisiens et les scribes pour faire fleurir devant nos yeux la fleur de la ressemblance au Père, qui est la justice que Dieu nous demande. Ok, on va commencer avec nos 4 points. Et pour cela, nous allons lire d'abord pour le premier point les versets 21 et 22. Regardez bien. 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raca », ce qui veut dire « tête vide », sera justiciable du Sanhédrin. Et celui qui lui dira « insensé » sera passible de la géhenne du feu. Une allusion à l'enfer, l'enfer éternel. Le premier point, c'est que tu peux tuer sans toucher. Les pharisiens avaient détourné le 6e commandement que Jésus cite. Tu ne tueras pas. Vous connaissez ce commandement tous? Et les pharisiens avaient donné un petit ajout. Jésus va dans un premier temps montrer ce que les pharisiens avaient fait de cette loi. Et donc il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement.
Alors, la partie que les pharisiens ajoutent et que Jésus cite, c'est « Celui qui commettra le meurtre sera passible du jugement », c'est-à-dire en Israël, dans les tribunaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit ajout ? Tu ne tueras pas, Dieu a dit. Celui qui tuera mérite d'être passible au jugement. Ce petit ajout, c'était une manière habile de la part des scribes et des pharisiens de limiter le commandement de Dieu, tu ne tueras pas, à l'acte physique. Celui qui tuera sera passible, méritera de passer en jugement dans les cours d'Israël. Vous allez voir pourquoi je le dis, parce que Jésus le dit après. Donc, ce petit ajout permet de limiter ce commandement à l'acte physique. Tu ne tueras pas, pour les pharisiens et les scribes, signifie simplement tu ne commettras pas l'acte physique de tuer quelqu'un. Parce que pour aller dans les tribunaux, n'est-ce pas, il faut qu'on puisse avoir un acte que quelqu'un a vu quand même, n'est-ce pas, un acte physique. La deuxième chose que cette phrase permet de faire, c'est de limiter la punition à ce qui se passe au niveau humain, dans le tribunal humain. Celui qui tuera mérite de passer au tribunal. Dans le contexte, c'est un mot qui parle des cours, des tribunaux locaux en Israël. Verset 22. « Mais moi je vous dis, et voilà Jésus corrige, « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, pas d'acte physique, c'est juste dans le cœur, c'est l'attitude. » Celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère « Raca », tête vide, mérite d'être puni par le Sanhédrin, la Cour suprême d'Israël. Et celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne, l'enfer éternel. Jésus donne le vrai et le plein sens du sixième commandement. Vous êtes arrivé ici et vous avez pensé, je ne suis pas aussi mauvais que ça parce que je ne suis pas voleur, je ne suis pas meurtrier. Non. Selon Dieu, la manière dont Dieu regarde son commandement et ce qu'il exige de vous, quand vous avez l'attitude de la colère, cette colère qui vous met contre quelqu'un, il y a une colère juste dans laquelle vous aimez encore et vous êtes pour la personne, mais il est très rare que nous humains, nous ayons cette colère. La colère que vous avez, la plupart du temps, vous amène à être impatient, ok, avec vos enfants, avec vos conjoints, avec vos voisins. C'est une mauvaise colère, à dire des choses comme « raca », comme « insensé », comme « imbécile », ok ? Donc cette colère-là dont Jésus parle, Jésus dit que lorsque Dieu a dit « tu ne tueras pas », il ne voulait pas dire « tu ne passeras pas à l'acte simplement », il a dit que l'attitude qui pousse les gens à tuer physiquement, vous n'aurez même pas cette attitude dans votre cœur, parce que dans votre cœur, vous avez tué cette personne, pour Dieu. Regardez bien ce qu'il dit. « Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui lui dira insensé à la fin mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. » Chers amis, tu peux tuer sans toucher. Et tu as souvent tué sans toucher. Et sans le sang de Jésus-Christ, sans la conversion à Christ, sans ce qu'il a fait pour vous, vous allez paraître devant Dieu comme des, non pas des gentils garçons et des gentilles filles, mais des meurtriers. Multiples. Nous vivons dans une culture de colère. Nous vivons dans un monde de meurtriers. Et le jour du jugement, cela va paraître. Nous ne nous jugeons pas selon la loi de Dieu. Nous tronquons, nous arrondons les angles pour que nous puissions nous regarder et dire « Moi, je suis une gentille personne. » Mais le jour du jugement, c'est Dieu qui jugera selon sa loi, selon son exigence, et toutes les bouches seront fermées. Nous vivons dans une culture où certaines fans de foot arrivent au match avec l'intention et le désir de commencer une bagarre. Nous vivons dans une culture où le mot le plus fréquemment prononcé en France dans des voitures, lorsqu'on est dans des mauvais embouteillages, c'est « imbécile ». C'est le même mot ici que « insensé », où Jésus a dit « celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne ». Nous vivons dans une culture où Hollywood invente un thème répétitif où l'acteur principal avec qui on s'identifie parce qu'il a raison, il a été victime de quelque chose d'horrible et tout le film a pour thème la vengeance justifiée, entre guillemets. Mais ça permet film après film d'être des films en fait de colère. Des films de colère, de colère, de colère, de colère. Pourquoi inventons des films comme ça? Parce que nous sommes une race en colère. Dans les lieux de travail, dans les voisinages, des injures, des propos hostiles, blessants dans les familles, entre les conjoints. En tout cas, nous tuons souvent. Nous ne passons pas à l'acte parce qu'il y a de grands inconvénients à passer à l'acte. N'est-ce pas? Mais dans notre cœur, nous avons hébergé les mêmes sentiments, les mêmes attitudes que ceux qui tuent. Le deuxième point, c'est que tu peux aller en enfer pour ta colère. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raca sera justiciable du Sanhédrin, Cour suprême, passible du jugement, c'est un mot qui a référence aux tribunaux locaux en Israël. Celui qui lui dira insensé sera passible de la gêne de feu, l'enfer. Qu'est-ce que Jésus veut dire par cette progression en allant des cours locaux jusqu'à la Cour suprême, et puis à l'enfer. Est-ce qu'il est en train de distinguer différentes colères intérieures ou différents mots de colère en disant que certains sont plus graves que d'autres? Non, pas du tout. Si on pensait ça, on serait obligé de dire que Raca t'a amené juste à la Cour suprême d'Israël, mais insensé t'a amené à l'enfer. Non, il n'y a pas eu de différence entre les deux. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Jésus est en train d'utiliser une démarche de rhétorique pour montrer que les pharisiens n'ont pas raison. Parce que les pharisiens disaient que c'était au cours d'Israël de décider les peines des meurtriers et que ça s'arrêtait là. Okay? Mais Jésus est en train de dire, attendez. Tout le but de la loi civile d'Israël, c'était d'être le reflet de la loi finale un jour de Dieu. Ce qui se passe dans la Cour suprême, c'était pour parler d'une autre chose encore plus grave qui allait se passer dans le vrai Cour suprême. Et vous, les pharisiens, vous avez coupé, vous avez détruit le lien entre les tribunaux en Israël et le tribunal final de Dieu. Mais moi, je vous dis que dans vous le faites ici, vous serez jugé ici, peut-être, mais vous serez jugé là-bas, un jour. D'accord? Donc, la colère intérieure est un meurtre que Dieu lui-même jugera. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Pouvez-vous comprendre cela, que la colère intérieure peut t'amener à être condamné éternellement? Si vous considérez que cette colère, par cette colère intérieure que vous ne refusez pas, mais que vous vivez, que vous dites « j'avais raison de dire imbécile, j'avais raison d'avoir ce sentiment », vous êtes en train de dire « je refuse d'être comme Dieu », d'avoir la justice qui reflète ce Dieu qui est patient envers le mauvais, l'injuste. Mais moi, je veux être la contradiction satanique de Dieu. Et moi, je veux être en colère, avoir de la haine pour les gens. Et Dieu ne permettra pas qu'une personne comme cela soit dans son royaume. Cette attitude, vraiment, est le refus complet de tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu veut que vous soyez. Et si vous voulez, pensez à tout ce que la colère produit dans votre vie. Qu'est-ce que la colère a fait dans ta vie? La colère a produit des divorces. La colère a produit des ruptures entre enfants et parents. Partout où la colère est passée, au lieu du travail, des gens qui ne se parlent plus, ou qui se parlent, mais vraiment à peine civilement, mais n'ont plus de relations, c'est la colère qui est passée par là. La colère détruit. Et Dieu n'aime pas cette destruction, et il ne permettra pas. Ok, ça c'est les deux premiers points. Vous pouvez voir que la loi de Dieu est un miroir qui nous met dans une position complètement différente de ce que nous pensions avoir. Maintenant, pour les deux derniers points, ça va être plus rapide. Jésus va donner deux illustrations pour montrer qu'il ne suffit pas de ne pas tuer en acte, ou même en attitude. Est-ce que vous saviez que chaque fois que Dieu, dans sa loi, dit de ne pas faire quelque chose, sous-entendu dans ce « ne pas » est un ordre de faire quelque chose de positif? Je vous donne un petit test. Quand Dieu vous dit de ne pas mentir, qu'est-ce qu'il est en train de vous ordonner de faire positivement? Ok, voilà. Donc, si je vous lisais en Éphésiens chapitre 5, vous le verrez, je vous dirai juste deux versets. Écoutez ceci, c'est presque exactement ce que Georges a dit. Donc, je reviens en arrière. Ah oui, c'est chapitre 4 plutôt, oui. Oui. C'est pourquoi rejetez les mensonges et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Ou bien, quand est-ce qu'un voleur n'est plus un voleur? Quand il cesse de voler? Non. Quand Dieu dit de ne pas voler, il te dit aussi de...
Restituer
et aussi de donner aux autres. Écoutez ceci.
Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. D'accord? Donc, quand Dieu te dit, tu ne tueras pas, il te dit aussi, tu seras quelqu'un comme moi qui réconcilie. Et là où ta colère a brisé des relations, tu feras tout pour les réparer. Si tu ne vas pas jusque-là, tu n'es pas du tout comme moi. Et tu me refuses comme ton modèle éthique. Donc tu me refuses. Donc nous allons voir ces deux illustrations qui ont à faire avec la réconciliation. Et la première illustration nous montre que il est nécessaire de vous réconcilier avec ceux que votre colère a rompu. Et deuxièmement, il est urgent de vous réconcilier avec ceux que votre colère a blessés. Donc, premièrement, et c'est notre point 3, il est absolument nécessaire de te réconcilier avec les personnes dont les rapports ont été détruits par ta colère. On va lire les versets 23 et 24. Lisez-les avec moi et on va aller vraiment rapidement. Ok, donc il dit au verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, donc tu es dans le culte au temple, ok, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, dans le contexte tu as fait du mal, tu as été en colère avec lui, laisse ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Première illustration, c'est dans le culte. Alors, l'enfant de Dieu est là, et il va faire un acte religieux envers Dieu, et il se souvient qu'il a été colérique avec quelqu'un, qu'il a dit un mot blessant, et que doit-il faire? Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que j'ai fait de mal à Jacques, donc pour réparer ça, je vais aller faire quelque chose de religieux. Mais Jésus dit c'est le contraire. Jésus dit que Dieu n'acceptera pas que tu viennes adorer, que tu présentes une offrande. Dieu ne veut pas de ton offrande tant que tu n'essaies pas de réparer cette relation. Donc, c'est très radical. Il dit carrément que tu dois faire un acte absolument abrupt. Tu laisses carrément ton offrande là. Tu n'offres pas, tu quittes le culte au milieu. Tu dis, excusez-moi tout le monde. Hein? Tu pars et tu vas chercher cette personne. Si tu n'arrives pas à le trouver, tu l'appelles, tu lui envoies un SMS. Tu corriges, tu répares. « Oh, pardonne-moi, je me suis souvenu que je t'ai fait ça, je t'ai blessé. » Et seulement quand tu fais ça, tu obéis au commandement de ne pas être un meurtrier. Et n'étant plus meurtrier, tu peux venir offrir ton offrande. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Et je peux vous dire que j'ai eu à faire presque exactement ça dans ma vie. Les gens disent parfois que, oui, le temps passe et le temps guérit. N'est-ce pas? J'ai dit quelque chose de mauvais. Mais ici, c'est un acte dans son passé. Il est là et Jésus dit, il se souvient. Ah! Le temps est passé, mais ça ne change rien. Il est obligé d'aller assurer que la personne n'a pas quelque chose contre lui. Ça, c'est une exigence de Dieu. Ça, c'est la loi de Dieu. Et si ta justice n'arrive pas à ça, n'arrive pas à vraiment embrasser ça et tenter de vivre comme ça, tu es un pharisien et un scribe et tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Je ne dis pas que tu arriveras parfaitement à faire cela, mais je dis que si tu refuses cette norme comme la norme, si tu ne tâches pas de tout ton cœur
d'obéir tout ce qu'on va étudier dans la semaine prochaine. Tu es un des pharisiens, des scribes, qui déforme la loi de Dieu, qui le réduit à ta taille, et tu n'es pas dans le royaume. Ok, dernière illustration. On a dit que c'est nécessaire de se réconcilier pour ne pas être meurtrier, mais dernièrement, il est absolument pressant, urgent, de te réconcilier avec les personnes dont les rapports ont été détruits par ta colère. Les versets 25 et 26. 25 et 26. Arrange-toi promptement, voilà, pressant, urgent, avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. La deuxième illustration ne se passe pas au temple. Ça se passe où? En chemin. Et où est-ce qu'on on est en train d'aller? On est en train d'aller au tribunal. Il y a un accusé, il y a un accusateur. Et les choses vont se régler au tribunal. Et Jésus dit, avant d'arriver, c'est le tribunal, avant d'arriver, arrange-toi vite avec ton adversaire. De peur qu'il ne te livre au juge, ainsi de suite. Vous voyez? Jésus dit qu'il est urgent pour chacun de nous de nous réconcilier avec ceux dont nous avons brisé les relations par notre colère. Sinon, vous n'acceptez pas d'obéir à ce commandement, tu ne tueras pas. Je suis d'accord, on ne peut pas toujours se réconcilier parce que l'autre personne ne veut pas. Il faut deux. Mais parfois, c'est nous qui n'avons pas fait notre part. N'est-ce pas? Et Jésus dit, il est urgent que vous le fassiez. Il est urgent parce que vous êtes en chemin vers le tribunal, vous devant moi, pas le tribunal humain. Mais en fait, Jésus est en train de faire une allusion au tribunal final. Vous savez pourquoi je le dis? Regardez bien ce verset 26. Il dit, en vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là, de la prison, que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Cette formulation, en vérité, je te le dis, et cette affirmation absolue, tu ne vas pas sortir de là jusqu'à ce que tu payes le dernier centime, ne peut pas être une allusion aux tribunaux et aux prisons humaines. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Jésus ne peut pas jurer là-dessus. Il jure en quelque sorte. Il est en train de parler par extension du jugement dernier. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là, de la prison de Dieu, sans payer le dernier centime, ce qui n'arrivera jamais en fait, pour ceux qui sont dans l'enfer, parce que c'est une peine infinie, selon la Bible. Dieu est saint, saint, saint. Je conclue. Peut-être tu réalises aujourd'hui que tu n'as eu aucune intention vraiment d'obéir à ce commandement, tu ne tueras pas. Tu ne savais pas que tu étais meurtrier. Tu ne savais pas que tu n'avais aucune intention d'aller jusqu'à être comme le Père, comme Dieu lui-même, dans la grandeur de sa patience et de sa grâce envers ceux qui sont mauvais envers lui. Tu n'avais aucune intention. Ça veut dire que tu n'as aucune intention de vivre avec lui après cette vie. Parce que ici-bas, tu n'as pas accepté ni qui il est, ni ce qu'il exige, ni la sorte de personne qu'il a chez lui. C'est très bien de réaliser ça. Ça, c'est le premier pas vers la conversion. C'est accablant, n'est-ce pas, de réaliser qu'on est coupable jusqu'à ce point-là. Et maintenant, tu réalises,
Ah, maintenant je comprends pourquoi ces chrétiens disent constamment qu'on a besoin d'un sauveur. Moi, j'ai besoin d'un sauveur pour m'apporter le pardon. Si c'est votre cas, alors je vous appelle à venir à Christ, à supplier Dieu, à vous réconcilier avec lui, à vous repentir. Peut-être que tu es chrétien, mais tu réalises que tu as glissé dans la compromission vis-à-vis de ce commandement, n'est-ce pas? Tu as commencé à permettre la colère dans ta vie, dans certaines situations. C'est avec qui? C'est avec ta famille? C'est au travail? C'est avec un voisin? On le voit par certains mots que tu utilises, raca. C'est peut-être pas raca pour toi, mais on le voit par certains mots que tu utilises. C'est peut-être avec tes enfants. Et quand tu prononces ces mots, tu ne les veux aucun bien par ce mot, par ce geste. Et tu vois aujourd'hui que tu es en train de rejeter le Père. Soyez parfait dans ta bonté comme le Père. Et là aussi, tu dis, ô Père, je veux être comme toi et pas comme ce que j'ai été.